sur le qui-vive, trop près de l'insurrection, la guerre civile. Aucune force divine, juste un courage à bout de bras, solidaire en cellule. C'est un yo-yo, un bout de drap, une brique de lait. Parfois les nerfs trop envie de gueuler, souvent un cœur trop vite gelé. Mais digne, on est fiers.
Parloir libre.
Parloir libre.
Parloir libre.
Parloir libre, c'est briser l'isolement et traverser les murs grâce aux ondes.
Parfois les nerfs trop envie de gueuler, souvent un cœur trop vite gelé. Mais digne, on est fiers.
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 Parloir libre, une émission pour les prisonniers et leurs proches. Un jeudi sur deux, de 21h à 22h sur News FM 101.2.
Allô ?
Allô ?
Dédicace.
Deux ans dehors.
Dignité.
Clin d'œil.
Liberté.
Partage de galère.
Big up.
Solidarité.
Coup de gueule.
Allô ?
Appelle-nous au 04 56 14 23 54 pour passer tes messages et tes dédicaces.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salut.
Vous êtes bien à l'écoute de News FM sur le 101.2 et c'est l'équipe de Parloir Libre qui est aux commandes. Voilà, je suis M.
Annelie.
Mathias.
Et du coup, ce soir dans l'émission de Parloir Libre, nous avons une invitée, Elisabeth, qui vient droit de Paris et qui a travaillé au Génépi et a été visiteuse de prison. Du coup, elle va nous parler un petit peu de ça. Juste pour rappeler l'émission Parloir Libre, le principe, c'est une émission pour les prisonniers et leurs proches. Du coup, ça s'adresse à vous qui pouvez nous écouter depuis l'intérieur de la maison d'arrêt de Vars ou le centre de semi-liberté de Saint-Bruno. Et que, si vous avez envie à un moment d'écouter du son qui vous plaît, tout ça, faites-le passer par vos proches, n'hésitez pas. On a plusieurs moyens de nous contacter, du coup, en direct, vous avez la possibilité d'un téléphone, si les proches voulaient passer un coup de fil, appelez-nous au 04 56 14 23 54. Toute l'heure d'antenne est faite pour ça, du coup n'hésitez pas à nous appeler pour passer des messages. On a aussi un Facebook, Parloir Libre au pluriel, qui est trouvable très facilement sur Internet. Et on a même une adresse mail dont on ne parle pas très souvent, mais qui existe. Parloirlibre@mailou.org, si je me trompe pas, mailoo.org.
Et parloir au pluriel.
Parloir libre au pluriel. Voilà, du coup, n'hésitez pas, vous avez toutes sortes de moyens de nous contacter et de prendre l'antenne, la parole est à vous. Voilà.
On est parti, on va commencer par une petite interview d'Elisabeth, comme tu dis, qui nous vient tout droit de Paris, exprès. Alors.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, donc, qu'est-ce que tu as fait ? Tu étais au Génépi, c'était il y a combien de temps ?
J'ai commencé mon engagement auprès du Génépi en 2003, fin 2003. Donc ça remonte à il y a maintenant pas loin de 13 ans.
Ok, tu avais quel âge à ce moment-là ?
J'avais 20 ans.
Mais pour être au Génépi, c'est quoi ? Faut être étudiant ?
Ah oui, c'est condition sine qua non.
Ok, tu étais en étude de quoi ?
Étude de psychologie.
Okay. Alors après, est-ce que tu pourrais redire un peu ce que c'est le Génépi ?
Génépi, donc c'est un groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées qui a donc vu le jour en 1976 dans un contexte un petit peu, on va dire, je pense que toi-même tu peux en parler, hein, un contexte social un peu explosif.
C'était après les années 70 où pour le coup il y a eu beaucoup de mouvements de rébellion à l'intérieur des prisons, qui a eu vraiment pas mal d'émeutes, enfin, c'était vraiment hyper trash. La prison, enfin, c'est encore pire que maintenant, quoi, quand on entend les anciens qu'on parle. Donc il y a eu beaucoup d'émeutes, et ça a été fait par c'était Lionel Stoléru, qui était ministre de la Justice à cette époque-là, c'était l'époque de Giscard d'Estaing, enfin, c'était le gouvernement de droite et tout ça. Et en fait, ils se sont dit qu'ils allaient faire rentrer des étudiants un peu en prison pour donner des cours, je crois, c'est ça ?
Exactement. Oui.
Pour faire des ateliers, pour amener ça auprès des prisonniers, et en particulier, pour amener un peu de l'extérieur à l'intérieur, et pour détendre les gars, quoi.
Oui, on va dire pour amener ce qu'ils appellent une bouffée d'air frais. Et puis, on va dire le savoir, mais je pense que ça, c'était secondaire. Je pense que l'idée, c'était peut-être plus un petit peu d'avoir une distraction qui venait de l'extérieur.
Ouais, puis ça permettait complètement de calmer un peu aussi les prisons, et vu comment c'était à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était vraiment tendu. Enfin, ça se finissait en émeute. je sais plus s'il y en a où il y a eu des morts ou quoi, mais enfin c'était vraiment le.
Oui.
C'est vraiment toute une époque quand même.
Oui, il y avait pas les, c'était pas les hérisses comme maintenant.
Enfin, non.
Les hérisses, on va expliquer ce que c'est peut-être les hérisses.
Allez.
Donc en fait les hérisses. C'est une police particulière qui a le droit de pénétrer à l'intérieur des murs de la prison et qui peut et qui vient en fait pour effectuer des fouilles un petit peu aléatoires mais surtout assez sauvages des cellules et c'est vrai que il y a des détenus qui m'en ont parlé et ça peut être assez traumatisant de voir sa cellule retourner à sac par les hérisses. Et il faut surtout savoir qu'ils viennent cagouler, parce que, bah, évidemment, s'ils viennent pas cagouler, et bah, il peut y avoir des représailles. Et c'est ça qu'ils craignent le plus, je pense. Mais voilà.
Et les hérisses, ils interviennent aussi en cas de mouvement, en cas de.
Exactement.
Pour réprimer, ouais. Réprimer les mouvements de prisonniers. Mm. C'est les hérisses qui sont appelées, c'est des brigades de police qui sont formées. Spécifiquement à la répression des mouvements à l'intérieur des prisons.
Oui.
Et des retours qu'on pouvait avoir, c'est que les hérisses c'était vraiment des gens qui n'étaient pas fins du tout. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cas d'une prise d'otage, quand il y a une prise d'otage à l'intérieur d'une détention, par exemple, suivant les retours qu'on peut avoir, c'est quand tu as le raid qui intervient, grosso modo, tu as des chances de t'en tirer vivant ou que ça aille, en fait. C'est aussi débile que ça, alors que quand les hérisses interviennent, là, c'est la fête à n'importe quoi, quand même. Et que c'est pas pour rien qu'ils ont été surnommés les tortues ninja, parce qu'ils ont leur petite carapace, leur petit machin, leur petit bouclier.
Oui, je pense qu'ils ont été créés un petit peu dans l'urgence. C'est pas le raid. Autant le raid, je pense qu'ils ont vraiment une formation, et de base, c'est pas leur métier, quoi. Alors que les hérisses, c'est vraiment strictement. Ils sont envoyés un peu, j'ai envie de te dire, au casse-pipe, quoi, quelque part. Tu les envoies en milieu carcéral, et eux-mêmes, je pense que niveau formation, c'est clair que. C'est pas. Non.
Ah oui, non, c'est sûr.
C'est les CRS de l'intérieur.
Oui, c'est sûr. Ouais, c'est
vraiment les bourrins qu'on envoie. Quoi.
C'est ça, sauf que nous, en tant que, entre guillemets, civils, on ne peut pas voir. Tant qu'on n'est pas à l'intérieur de la prison, on ne sait pas à quoi ça ressemble. On n'a pas vraiment d'opinion.
Et puis, c'est très opaque. Du coup, il y a très peu de choses qu'on arrive, de témoignages qu'on arrive à entendre, puisque le fait déjà d'être incarcéré, ça complique grandement la communication avec l'extérieur et du coup de défendre des droits et que ben voilà, si tu t'es fait retourner ta cellule, si tu t'es fait tabasser, s'il y a tes droits qui ont été piétinés comme c'est régulièrement le cas, ben c'est très compliqué quoi.
Ah bah oui, t'as pas vraiment le droit de parole quoi par rapport à ça, non, en tant que détenu, c'est sûr que non.
Et quand t'es intervenu en prison, t'as vu par exemple les hérisses soulever des gars ou emporter des gars?
Ah, j'ai déjà assisté à, un détenu qui était emmené, je pense qu'il était emmené au mitard. Là, en revanche, dans mes souvenirs, c'était pas les hérisses, mais c'était des surveillants, mais qu'il était emmené pieds et poings liés, on le transportait comme un sac de voyage, quoi. Donc,
Juste pour préciser un petit peu pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, le mitard, c'est... le nom qui est donné à la cellule de
quartier disciplinaire.
Quartier disciplinaire, en fait, c'est ça le terme officiel. C'est là où t'es envoyé quand y a eu un mot de trop, quand on considère que t'as pas suivi les règles le règlement intérieur. Enfin, il y a de toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut atterrir au mitard.
Oui, c'est souvent suite à une altercation avec un surveillant ou avec un autre détenu et ça finit souvent au mitard. Ça peut aller de quelques jours jusqu'à un mois, tout en sachant qu'on ne peut pas laisser quelqu'un au mitard pendant un mois de façon ininterrompue à cause des risques de suicide. Donc.
Mais ça, c'est officiel. Hein.
C'est officiel.
Dans la réalité, c'est vrai qu'on a régulièrement lu des témoignages prisonniers et de prisonnières à l'antenne clairement il y a des choses comme ça qui sont un peu outrepassées selon les cas quoi.
D'accord. Et après pour la création du Génépi, je voulais revenir aussi sur un truc pour contextualiser un peu, donc ça c'est à dire c'était en 76 et pour le coup c'est en 81 là quand il y a donc là c'est le PS qui est arrivé avec Mitterrand et puis Badinter qui était à la justice mais là lui c'est pareil pour apaiser un peu comme il disait ce qui se passait en prison, là, c'est là où est arrivée la prison, j'allais dire, la télé. Le fait que la télé soit accessible, c'est avec Badinter, et que ça a permis vraiment de calmer tout le monde, en fait. Que c'est un peu comme, je crois qu'on en avait déjà parlé dans des émissions précédentes, sur le fait que d'avoir du shit, par exemple, qui puisse circuler quand même relativement facilement en détention, que ça sert vraiment à calmer les gens, à casser les gens, et en gros, tu restes dans la cellule, et puis t'attends que le temps passe avec ta télé en face de toi, exprès pour t'abrutir au final. Et, voilà, et je crois que c'est ça, je crois que ça avait été négocié à l'époque pour qu'ils puissent voir une Coupe du Monde ou un truc dans le genre, au début des années 80.
Mais bon. Et toi, du coup, ton expérience au Génépi, ça a été... comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passe quand tu veux entrer au Génépi? Est-ce qu'il y a des conditions?
Condition première, et je pense à laquelle tu ne peux pas déroger, c'est ne pas avoir de casier judiciaire, évidemment. Tu es convoqué au commissariat pour une enquête de moralité. Donc évidemment, je pense que ton dossier, il a déjà été revu avant que tu arrives au commissariat, ça me paraît évident, mais... on te pose quand même des questions sur tout ton passé, si je puis dire. Bien que quand t'as 20 ans, ton passé, c'est pas non plus un grand passé, mais on te demande si t'as reçu une éducation religieuse, est-ce que tu as reçu une éducation stricte. Donc, qu'est-ce qu'on entend par éducation stricte? Je ne saurais jamais. Est-ce que c'est se prendre des coups? Est-ce que c'est être envoyé au pensionnat? Je ne sais pas. On te demande évidemment, donc on te dit vous n'avez pas de casier, on te pose des questions, évidemment ils savent que t'as pas de casier sinon tu serais pas là, mais ils te demandent quand même. C'est pas un entretien qui dure très longtemps, mais on te pose des questions sur tes valeurs morales, si t'as de fortes valeurs morales, dans mon cas ça s'est bien passé. Il y en a pour qui ça s'est pas aussi bien passé, un de nos collègues qui, malheureusement, il avait une contravention. Alors, je me souviens pas à l'époque quel type de contravention c'était, parce qu'il y a des contraventions de plusieurs classes, tout dépend. Il n'y a pas que la contravention qu'on reçoit dans le bus ou dans le métro, mais il avait une contravention d'une classe qui faisait que ça l'empêchait d'avoir le feu vert pour rentrer en prison et son laissez-passer. Et je crois qu'il a fallu qu'il négocie avec l'administration pénitentiaire pour pouvoir avoir une autorisation. Je suis même pas sûre qu'il l'ait eu, quoi.
Pour une contravention.
Ouais, pour une contravention.
Et il y a d'autres choses qui peuvent bloquer? Parce que tu parlais du coup là il demandait c'est quoi tes valeurs morales, si tu as une éducation religieuse. Est-ce qu'il y a des choses qui coincent qu'est-ce qu'ils attendent en fait?
Je pense que de nos jours, alors bon, ça c'était en 2003. De nos jours, avec tous les problèmes de djihadisme, de radicalisation, etc. Je pense que si tu expliques que tu es croyant, tu suis les préceptes du Coran, etc., là, ils vont fortement renacler à te laisser entrer en milieu carcéral. Si en plus si tu dis que tu es converti, alors là, à mon avis, c'est rédhibitoire, je pense. Après, l'éducation stricte, pour eux, je pense que c'est ça, ça rentre dans le contexte de l'éducation religieuse. L'éducation stricte, bon, tu t'es pris une fessée, c'est pas ça qui va faire que tu vas pas y aller, mais... Si tu dis oui, je suis très croyant, mes parents m'emmenaient prier, etc., là, je pense que là, ils vont s'inquiéter. Ouais.
Ok.
Voilà.
Et ce qui fait que. Mais donc, là, on a parlé des gens qui pouvaient rentrer ou pas rentrer. Ce qui fait que vous étiez nombreux, Jennifer?
Alors, moi, dans mon groupe, on était donc à Fresnes. On était basé à Fresnes. On était une trentaine.
Trentaine à Fresnes.
Ouais.
Okay. À Fresnes, près de Paris.
Voilà, dans le 94, Val-de-Marne, région parisienne.
Ce qui fait, quoi, c'est ça. Donc, toi, on disait que tu viens de Paris. Mais donc, à Paris, il y a plusieurs prisons.
Mm-hmm.
Il y a quoi? Il y a Fresnes.
Donc, il y a Fresnes, qui est une maison d'arrêt. Il y a La Santé, qui est une maison d'arrêt aussi.
Qui, elle, est en centre de Paris, du coup.
Qui est dans le centre de Paris, qui était vraiment insalubre. Il y a eu des travaux. Je ne peux pas dire comment c'est maintenant, parce que j'y étais avant les travaux. Donc, en 2006 à 2008, donc ça remonte. Mais il y avait vraiment des gros problèmes d'insalubrité, même pour le personnel, de travailler dans des conditions comme ça, je pense que c'était pas évident. Et il y a aussi, il n'y a pas que des maisons d'arrêt en Île-de-France, il y a aussi des centrales, comme Réo par exemple. Mmh. Réo qui se situe, si mes souvenirs sont bons, en 77, en Seine-et-Marne.
Ouais, c'est ça, c'est en bas à droite. Là.
Voilà, ouais. 77, Seine-et-Marne. Mais moi j'étais juste en maison d'arrêt, donc La Santé et Fresnes.
Okay.
Maison d'arrêt où les détenus sont censés rester pour une courte période, je précise. Mais la courte période pouvait vite se transformer en longue période.
Et du coup, moi, j'avais envie de demander comment c'était la relation avec l'administration pénitentiaire, entre les Génépis, l'administration pénitentiaire.
Alors, avec le SPIP, c'était des relations, somme toute, tout à fait cordiales.
Du coup, le SPIP...
Le SPIP, pardon. Service de probation et d'insertion. Donc, service de probation et d'insertion, qui, je dois dire, avec qui on a eu une très bonne collaboration. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais responsable de la communication avec eux, ils nous ont pas mal soutenus sur des projets, avec, pour des ateliers. Donc, avec eux, je peux pas vraiment dire qu'on ait rencontré de grands soucis. Après, évidemment, bon, eux, ils traitent avec les chefs de la détention. Là, c'était encore au-dessus d'eux. Ce qui est évident, c'est que bon, il y avait des ateliers où il fallait pas que ça soit non plus trop polémique. Donc des ateliers d'écriture, certes. Moi, j'en ai pas animé. Je sais qu'il y en avait qui animaient des ateliers d'écriture, mais il fallait pas que ça déborde de trop ou que ça parte dans des choses politiques ou religieuses. Il y avait quand même une relecture des textes de la part des administrations, très clairement.
Du coup, il y a une censure très claire.
Bah, je sais que oui. Enfin, moi, j'ai animé un atelier d'écriture à la maison d'arrêt de Carcassonne en 2004, et je sais que bon, les textes que les détenus écrivaient, il fallait quand même qu'on regarde un petit peu ce qu'ils écrivaient, parce qu'on savait que quelque part, en bout de chaîne, ça allait être lu par l'administration pénitentiaire. Donc, c'est pas non plus open bar, ça c'est sûr.
Ok. Peut-être juste une petite coupure musicale. Je crois qu'on a un message Facebook avec une petite dédicace.
Tout à fait, donc on a reçu ça, donc on va vous lire tout ça. D'ailleurs, a priori, la personne à qui est dédicacé le message et la chanson a peut-être pas de radio. Donc c'est de voir si quelqu'un peut lui transmettre le message, parce que ça a quand même un contenu assez fort, ce que vous allez voir. Donc en fait, c'est un message à passer à Julien de Tilleul. Donc le message, c'est de lui dire que son fils Jimmy a vu le jour le vendredi 29 avril à 5h50. Sa femme et sa fille l'aiment fort, à très bientôt. Et donc voilà, donc c'est et de lui dire aussi qu'on ne l'oublie pas, enfin que sa famille ne l'oublie pas, et donc on va lui dédicacer en fait « I don't know why I love you », désolé pour l'anglais, de Stevie Wonder.
Allez, on s'écoute ça.
Ok, peut-être juste je rappelle avant que vous êtes à l'écoute de Parloir Libre sur News FM 101.2, et que vous pouvez nous appeler au 04 56 14 23 54. Je répète, le 04 56 14 23 54 pour des dédicaces, des messages envers les personnes emprisonnées, des messages de solidarité. N'hésitez pas, on est là jusqu'à 22h. Bonne écoute.
News FM.
News FM. News FM, la radio officielle du hip-hop R&B à Grenoble sur le 101.2 News FM.
Me when I'm down, that's your rule. I don't know why I love you, but I love you. Ooh. Oh, you never stop your cheating ways with another guy. You laugh in my face. Oh,
Merci beaucoup pour cette dédicace. Vous êtes toujours à l'écoute de Parloir Libre sur News FM, le 101.2. N'hésitez pas à nous téléphoner au 04 56 14 23 54. Je répète, le 04 56 14 23 54 ou via notre Facebook, Parloir Libre au pluriel. Du coup, on était en train de poser des questions à Elisabeth, qui vient de Paris et qui était génépiste et visiteuse de prison. Est-ce que tu veux nous parler du coup de ce deuxième volet ?
Alors oui, donc on va passer au deuxième volet qui concerne la NVP. Donc la NVP, Association Nationale des Visiteurs de Prison. À l'époque, j'étais donc étudiante à peu près jusqu'en 2008. Évidemment, le GNEPI, comme son nom l'indique, c'est un groupement d'enseignement national des étudiants aux personnes incarcérées. Et malheureusement, dès qu'on n'est plus étudiant, on est obligé de quitter ce mouvement, ce qui est vraiment fort dommage. Et par la suite, je voulais poursuivre mon engagement et j'ai décidé de rejoindre la NVP. J'ai envoyé un petit peu mon CV, j'ai un petit peu essayé de convaincre la NVP que je pouvais travailler avec eux. Quand je dis convaincre, c'est parce qu'à l'époque, j'avais donc 25 ans et que la plupart des visiteurs de prison sont quand même plutôt des seniors, donc à partir de l'âge de 60 ans, et qui ne voient pas forcément d'un bon œil l'arrivée de personnes jeunes parce qu'ils considèrent que c'est des personnes qui ne sont pas très constantes dans leur engagement. Qui peuvent être amenés à se déplacer pour les études, ce qui est vrai, mais bon, dans mon cas, mon engagement, il était là, et je considérais que j'avais ma place, et j'ai réussi à le prouver, et donc je suis restée au sein de la NVP pendant 2 ans, en fait.
Du coup, LVP ?
ANVP.
ANVP ?
Association Nationale des Visiteurs de Prison.
D'accord, et du coup, cette asso, elle existe depuis combien de temps ? Ça, tu peux nous en parler un peu.
Alors, depuis combien de temps, ça, c'est une très bonne question.
Je ne sais plus du tout non plus, mais c'est une asso qui est assez ancienne quand même, pour le coup.
Oui, peut-être à peu près, là, je dirais, la même époque que le GNEPI. Là encore, c'est une association qui est quand même destinée à, on va dire, rompre l'isolement encore plus que le GNEPI. Puisque, grâce à cette association, les détenus qui n'ont pas l'occasion, la chance d'avoir de la famille qui vienne leur rendre visite, peuvent avoir des visiteurs qui viennent les écouter, leur parler du quotidien, de comment c'est dehors, parce qu'il y en a qui n'ont pas été dehors depuis 10 ans, 15 ans. Donc, c'est vraiment destiné à rompre cet isolement. C'est une association... pour ça, qui est quand même plutôt, on va dire, constitué de personnes à la retraite, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Moi, il se trouve qu'à l'époque, j'avais un petit peu de temps encore à consacrer, et justement, je pouvais me permettre de rejoindre cette association.
Et du coup, tu étais toujours à Fresnes ou tu étais dans une autre prison ?
Non, là, je suis revenue à Fresnes, en fait. Je suis revenue à Fresnes. J'ai fait un passage à la santé lors de... mon engagement pour le GNEPI, mais je suis revenue à Fresnes pour ce qui concernait la NVP, puisque bon, ils n'avaient pas besoin de visiteurs à la santé. Voilà.
Du coup, c'est une association qui est présente sur beaucoup de prisons en France. Est-ce que c'est assez des...
Oui, c'est une association qui est présente sur toute la France, en fait. C'est une association... Qui a donc un dégroupement de bénévoles à travers la France. Et en fait, dans chaque région française, il y a un représentant ou une représentante qui s'occupe un petit peu du recrutement, des bénévoles, qui s'assure que les bénévoles soient en adéquation un petit peu avec l'éthique de l'association.
Et c'est quoi l'éthique de l'association ?
L'éthique, c'est quand même de ne pas juger les détenus, de ne pas chercher à savoir à tout prix pourquoi ils sont là. Ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans GNEPI, c'est ne pas questionner. Bon, de toute façon, ça viendra certainement sur le tapis, puisque ils sont là pour une raison et ils ont envie d'en parler très souvent. Donc, ne pas les juger. Donner de son temps, être constant. Et quand je dis constant, c'est pas se dire « là, je suis fatigué, j'y vais pas cette semaine, j'irai la semaine prochaine ». Non, c'est d'y aller chaque semaine, respecter l'horaire et le jour que vous avez convenu avec le détenu. Et évidemment, on va dire entretenir des relations courtoises avec l'administration également. Voilà.
Du coup, c'est quand même noté dans l'éthique. Du coup, si tu le précises.
Ah oui, oui, on te dit bien que bon, enfin oui, t'es là pour soutenir le détenu, mais t'es pas là pour aller remettre en cause les choses, quoi. T'es plus dans un rôle de soutien et d'écoute, en fait.
Et donc, c'est comme le Genepi, où il y avait aussi une enquête de moralité et tout ça ou...
Alors, il se trouve que non. Moi, j'ai pas eu d'enquête de moralité. Ce qui est fort possible, c'est que, vu que j'avais déjà, entre guillemets, subi une enquête de moralité pour le Genepi quelques années auparavant, ils n'aient pas jugé utile de me reconvoquer au commissariat. Mais il est fort possible que des membres qui, eux, n'avaient jamais eu affaire à la prison aient eu droit à une enquête de moralité. Ça me paraît à peu près évident.
Ouais. Parce que, du coup, à partir du moment où tu veux rentrer à l'intérieur de la prison, il y a quand même beaucoup de chances que tu passes par là, quoi.
Ah bah oui, c'est pas...
Parce que, ça me fait penser à n'importe quelle association qui voudrait aller proposer quelque chose à l'intérieur. Mmh. Elle va passer par là obligatoirement.
Ah bah oui, ça c'est certain. Enfin, si c'est des personnes qui interviennent au sein de la prison pour une activité culturelle, c'est évident qu'il va y avoir une enquête de moralité. Et ça peut être fait à l'insu aussi de la personne. Moi, ils m'ont convoqué. Après, je pense que de leur côté, ils n'ont pas besoin qu'on se rende de nous-mêmes, qu'on se déplace pour faire leur enquête de moralité de leur côté. Et surtout de nos jours, avec tout ce qu'il y a sur Internet, ce n'est pas un souci. Hein.
Et c'était de rappeler que justement, il y avait des visiteurs aussi qui étaient à Vars, qui en avaient l'air justement d'avoir rencontré une visiteuse à Vars qui parlait bien qu'elle aussi, elle avait eu droit à son... truc de moralité.
Enquête de moralité.
Enquête de moralité. Alors qu'effectivement, elle, c'est une senior et tout ça, donc ça doit faire bizarre de voir défiler les seniors au commissariat avec leur enquête de moralité, là, comme ça.
Tu sais, les enquêtes de moralité, ça touche tout le monde. Ouais. Ils considèrent que n'importe qui peut avoir des choses à se cacher, n'importe qui peut être un militant, n'importe qui peut constituer une menace.
Mais c'est aussi le cas pour les familles qui viennent visiter l'enquête de moralité, non?
Alors ça, je pourrais pas te dire. Ça me paraîtrait énorme, sachant que c'est quand même la famille.
Moi, il me semble pas. Peut-être à la limite, si
les amis,
voilà, s'il n'y a pas de lien de sang.
Ouais,
quoi.
Là, d'accord.
Éventuellement, oui, mais sinon, souvent, la plupart du temps, c'est refusé ou c'est accepté sans forcément expliquer le pourquoi, du comment, quoi. Et que si t'insistes et tu fais un recours, là, peut-être il y a enquête, quoi, pour savoir pourquoi est-ce qu'ils t'ont dit non, pourquoi est-ce que. Mm. Et du coup, je voulais juste rappeler que vous êtes toujours à l'écoute de Parloir Libre sur le 101.2 News FM. N'hésitez pas à nous appeler au 04 56 14 23 54. Parloir Libre, une émission pour les prisonniers et leurs proches. Du coup, n'hésitez pas, l'antenne est pour vous. Nous, on parle et tout ça, machin. Mais si vous avez envie de prendre la parole, vous êtes prioritaire. Et puis, n'hésitez pas aussi à réagir à tout ce qu'on se raconte et tout ça, si vous avez envie de dire des choses, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez envie de parler de trucs que vous avez vécu, n'hésitez pas, au 04 56 14 23 54.
Et en plus, la page Facebook, toujours, qui est là pour recevoir tous les messages, les dédicaces, ça permet de prendre un peu de temps, pour avoir un peu de temps pour écrire aussi, même avec le téléphone, donc c'est toujours Parloir Libre au pluriel sur Facebook.
Et du coup, moi, je voulais aussi te demander, du Genepi et d'être visiteuse de prison, est-ce que tu t'es confrontée à de la violence entre l'administration pénitentiaire et les détenus, par exemple? Comment est-ce que...
Oui, comme je l'évoquais tout à l'heure, une scène qui m'avait fortement choquée. Un détenu qui, pour une raison que j'ignore, avait eu une altercation avec des surveillants. Et moi, j'étais donc dans le parloir avocat. À l'époque, j'étais au Genepi. Et ils voulaient l'envoyer au Mitard, donc le quartier disciplinaire. Et en fait, ils l'avaient attaché avec des liens par les poignets et par les pieds. Et en fait, ils le portaient. Ça m'avait vraiment choqué parce que c'était comme un paquet. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui lui tenait les pieds, l'autre les poignets. Et il le transportait comme ça, en fait. Et moi à l'époque, je sais pas, je devais avoir 21 ans, 22 ans, j'avais été un peu interpellée, on va dire. Et ça m'avait semblé vraiment extrême, en fait. parce qu'ils étaient, je crois qu'ils étaient à 4 sur lui. Et je me disais quand même, à 4 sur une personne, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc moi, j'avais déjà vu ça. Après, j'ai aussi assisté, et je pense que toi aussi, Mathias, tu peux en témoigner. Quand on arrive en fait en division, qu'on montre donc son laissez-passer.
Division, du coup, c'est les quartiers, différents quartiers de la prison. Pardon.
Voilà,
couper,
pardon. Mais... Non, mais t'as raison, t'as bien fait de me couper. Il faut présenter son laissez-passer, donc à la grille. Et là, parfois, on voit des fourgons en fait de l'administration pénitentiaire qui arrivent donc avec des détenus. Enfin, des détenus. Et il y en a certains qui sont enchaînés aux pieds, en fait, qui arrivent avec des chaînes aux pieds. Et pour moi, c'était surréaliste. J'ai l'impression, enfin, j'avais jamais connu l'époque du bagne, mais j'avais l'impression de voir ce qu'on voit à la télé dans les films, les bagnards avec les chaînes aux pieds. Je sais pas si toi, t'avais assisté à ça.
Bah, puis il y a le coup des chaînes aux pieds. Après, souvent, c'était dans le cas de transfert pour aller, au tribunal ou ailleurs.
Oui, à l'hôpital, hein, des fois.
Ou à l'hôpital. Ouais, des fois, c'est juste pour aller à l'hôpital qui était pourtant à 200 mètres à côté. Ah, oui. Donc, en fait, et le truc, c'est, ils stockaient, en fait, les prisonniers dans une espèce d'estafette toute pourrie dans laquelle t'as juste la place de t'asseoir. C'est-à-dire que t'as un espace, enfin, grillagé, et t'es à plusieurs à l'intérieur, les uns à côté des autres, et chacun dans une espèce de mini-cellule où c'est ça, parce que tu peux pas être debout, tu peux rien faire. T'es complètement confiné là-dedans.
Ah bah, quand c'est pour faire 200 mètres, ça va, mais parfois, ça peut être 200 kilomètres. Hein, Mais non, moi, c'est vrai que c'était l'usage des chaînes aux pieds, ça m'avait semblé franchement excessif. D'autant plus qu'ils n'étaient pas à deux, quoi. Enfin, je veux dire...
Est-ce que tu connaissais l'univers carcéral avant de rentrer au Genépi?
Non, je ne peux pas dire que je le connaissais parce que j'étais étudiante en psychologie. J'ai vu cette affiche à l'université. À l'époque, j'étais à Paris 5, René Descartes. J'ai vu l'affiche. Moi, il se trouve que mon père, en fait, il est professeur de droit pénal, ce qui fait que j'ai toujours baigné dans tout ce qui était justice. Mais moi, j'étais plus dans tout ce qui était qu'est-ce qui fait que enfin, moi, ça m'a toujours intéressé de me dire qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui tombent dans la délinquance et pas d'autres. Et j'étais à peu près persuadée qu'il y avait des injustices à ce niveau-là. Et du coup, ça m'a convaincue que il fallait intervenir. Quoi.
Et du coup, cette expérience-là, ça t'a fait... comment ça a évolué, ce sentiment-là, et ce que tu pensais avec...
Moi, j'ai eu une certitude, c'est qu'en fait, donc, j'ai vu plusieurs... J'ai eu l'occasion en fait, de donner des cours à plusieurs détenus, tous issus de milieux modestes, à peu près les mêmes parcours de vie assez chaotiques. Et j'ai aussi vu, alors je ne les ai pas côtoyés de près, mais il y avait aussi ce qu'on appelle des détenus en quartier VIP. Donc c'était, par exemple, Loïc Le Floch-Prigent, Roland Dumas. J'ai eu l'occasion de les croiser dans les couloirs.
Du coup, pour préciser, qui sont ces deux personnes?
Donc, Roland Dumas, qui était un ancien ministre de...
Ouais, tu as dû faire la justice.
La justice, oui. Je pense sous le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing.
Non, Dumas, non, c'était l'époque socialiste de la...
Non, l'époque socialiste.
C'était un socialo.
Bon, pardon. Autant pour moi. Donc ça remonte. Il est avocat de profession, ça, il faut le savoir. Maintenant, il doit avoir plus de 90 ans. Et c'est quelqu'un, en fait... Donc il a été incarcéré à Fresnes. Ensuite, il a été libéré. Et après, il allait rendre visite à Loïc Le Floch-Prigent, qui, lui, en fait... Loïc Le Floch-Prigent, c'était un homme d'affaires... Il était incarcéré pour des raisons, je crois, de détournement de fonds.
Oui, c'est ça. Il fait partie des rares confinés en prison.
Voilà, c'est ça.
Et, on peut dire ça. Pour le coup, je peux dire juste un truc sur Le Floch-Prigent, parce que pour le coup, lui, parce que je m'en souviens à l'époque où il était à Fresnes, c'est en fait, il a réussi à sortir de Fresnes grâce à la loi sur la loi Kouchner, sur où théoriquement, quand t'es malade en prison, au bout d'un moment, la pénitentiaire en fait est tenue de te faire sortir. De te laisser sortir pour être un peu tranquille quand même. Quoi.
Très théoriquement. Quoi.
Théoriquement. Et en fait, ce truc, la loi Kouchner, ça a été fait essentiellement pour faire sortir Papon de prison.
Oui, il avait un cancer, Le Floch-Prigent, je me souviens.
Mais le Floch, je m'en souviens, c'était le moment où il y avait un... C'était quoi? C'était en discutant avec un surveillant à Fresnes qui racontait que c'était dans la même division, donc dans le même couloir. Il y a un gars qui, lui, s'était jeté d'une division, donc du deuxième ou du troisième étage. Donc le type s'est écrasé par terre. Enfin, c'est un truc affreux, quoi. lui, il est resté à l'intérieur de la prison. Le floc, lui, il était un...
Donc, c'est-à-dire que ça vaut pour certains, mais pas pour d'autres.
Exactement.
Donc, bah, le floc prison, oui. Pardon, excuse-moi, donc, il souffrait d'un cancer. Bon, c'est vrai que moi, je l'avais vu dans les couloirs, et par rapport à ce que j'avais vu à la télé, il était très amaigri, certes. Mais ce qui est assez frappant, c'est que donc, lui, il avait des horaires de parloir aménagés. Et en plus, Roland Dumas allait le voir au sein de la prison. C'est-à-dire que c'était pas le parloir famille où tout le monde va. C'est que Roland Dumas, il passait la grille avec moi, en fait. Il était là avec sa petite canne, il avait 80 ans. Mais il passait la grille avec moi comme si il avait un laissez-passer comme moi. Sauf que c'est une personne lambda. Bon, certes, il est avocat, certes, il a côtoyé le milieu de la justice, mais je vois pas pourquoi ça l'exempterait de, voilà, d'un laissez-passer, de pas être comme les familles, en fait. Mais tout ça pour en revenir à quelque chose qui m'avait choqué, c'est que bon, bah, le floc Prigent, comme tu le disais si bien, lui, il a quand même, je pense, eu droit à des conditions.
Ah lui, oui, carrément, bah, il a même fait tout un bouquin derrière, là, sur lequel il parle de ses conditions à Fresnes. Enfin, il essaye de faire tirer un peu les larmes, mais c'est vraiment...
Bah, dans le même style, il y avait Pierre Botton. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Non. Oh mon Dieu, il ne faut pas me lancer sur Pierre Botton.
Bon, bah vas-y, je te laisse.
Non, parce que là, j'en ai pour 20 minutes. Ah, bon. Mais je pourrais faire ça lors d'une prochaine émission, parce que voilà. Lui, c'est vraiment une canaille.
Voilà, donc lui, pareil, homme d'affaires incarcéré, ouais. Pour des raisons un petit peu de détournement de fonds. Et lui aussi, il a fait un livre, et lui, enfin, bon, il a prétendu que la prison l'avait marqué à vie, etc. Je sais pas si c'est... Bon, ça sera l'objet d'une autre émission, je pense que tu pourras en parler. Tu pourras en parler. Mais si je peux revenir à mon expérience dans la NVP, c'est celle qui m'a, je pense, le plus marqué, parce que bon, des détenus, j'en ai rencontré lors de mon expérience au Génépi. Mais à la NVP, en fait, j'ai quand même suivi pendant 2 ans le même détenu. Donc, à l'époque, il était jeune, hein, il avait même pas 30 ans, et quelqu'un qui était très 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 fragile psychologiquement. On va pas parler des raisons pour lesquelles il était incarcéré, mais il était très fragile psychologiquement. Il souffrait en fait d'une addiction à l'alcool, qui avait donc dû certainement être soignée à la sauvage, hein, je pense, en prison. Quand on a dit t'as quelque chose. Bon, bah, on va pas vous faire c'est pas une clinique de rehab, comme ils disent aux États-Unis. Donc, très fragile psychologiquement. Avant, il était SDF. Et en fait, donc, il a atterri en prison. Il a atterri à Fresnes. Donc, Fresnes, on est prévenu, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore été jugé. Donc, il attendait un petit peu que la sentence tombe. Et bon, moi, je le voyais toutes les semaines, et son état psychologique, je le voyais se dégrader de semaine en semaine. Et un jour, il a craqué, il s'est mis à pleurer, il m'a dit bon, moi, je vais me foutre en l'air. Il faut voir aussi qu'il avait un gamin à l'époque qui avait 4 ans à l'extérieur, et il m'a dit non, moi, je tiendrai pas. Je lui dis mais il y a quand même ton fils. Tu faut tenir, t'es jeune, t'as même pas 30 ans. Comment tu peux dire un truc pareil? Non, je tiendrai pas, c'est pas possible. Ma vie, elle est foutue. Je fais que de faire des allers-retours en tôle, et il y a pas d'espoir pour moi. Il y a pas d'espoir pour moi. Bon, moi, je me suis dit, c'est un coup de blues, quoi. Voilà. Enfin, c'était pas le premier à penser comme ça. Et puis, on va dire que c'était fin 2008. J'ai été contrainte de quitter la NVP parce que je devais partir en Angleterre pour mes études. Et je suis restée en contact avec sa sœur via les réseaux sociaux. Et en juin 2009, sa sœur m'a écrit pour me dire que son frère s'était pendu en cellule, en fait. Et ça m'a quand même fait un sacré choc, parce que après avoir passé 2 ans, un an et demi à voir quelqu'un toutes les semaines, on s'échangeait des lettres, bien que moi je sois en Angleterre, je continue à lui écrire. On s'échangeait des courriers. Enfin, j'ai envoyé des cartes postales, il m'envoyait des lettres, il me parlait de son quotidien, des fois il me faisait même des dessins, enfin c'était vraiment... on avait quand même noué un lien assez proche. Et du jour au lendemain, d'apprendre qu'il s'était pendu en cellule, alors qu'ils sont quand même censés être surveillés, j'étais quand même sous le choc. Et je peux aussi dire que bon, j'ai assisté à son procès, et je considère que les personnes en fait... issus de milieux modestes comme lui, issus de cités, sont, enfin, très clairement, en fait, leur procès, il est à charge, quoi. On peut dire qu'ils sont quand même pas mal écrasés et broyés par le système judiciaire, qui profite du fait qu'ils n'ont pas forcément tous les outils intellectuels à leur disposition. Et ce sont des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de se défendre comme des Le Floch Prigent aurait, comme des Roland Dumas, ou même une personne comme moi qui aurait peut-être plus de moyens, voilà, ou qui ait fait des études, parce que malheureusement, bah, lui, il n'avait pas eu la chance de suivre des études. Il me l'a dit d'ailleurs, il m'a dit, bon, moi, je ne veux pas que mon fils ait une vie comme moi, je ne veux pas que mon fils il finisse à la rue, je veux que mon fils il aille à l'école. Et bon, à son procès, on a très clairement pu... Enfin, moi, j'ai pu observer que... Bah, on peut dire, il y a une forme de mépris quand même des personnes de milieu modeste. Même si elle n'est pas actée, enfin, on ne la voit pas, ce n'est pas forcément clair, mais on la sent, en fait, très clairement. Et ça, c'est révoltant. Et moi, ça m'a fait du mal, parce qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas supporter de voir que parce que... Bah, il n'a pas reçu la même éducation que moi ou je sais pas que toi ou on peut pas laisser quelqu'un se faire piétiner quoi. Je veux dire quand bien même il a commis un crime, on peut quand même un petit peu lui laisser le bénéfice du doute. Et non là c'était à charge.
Ok.
Donc enfin, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose mais.
Bah pas spécialement mais après je pense que toute personne qui est passée à un moment ou à un autre dans un tribunal. Et qui a vu comment se passaient les jugements. On ne peut pas en ressortir. Enfin, j'ai l'impression qu'on en ressort à chaque fois un peu comme tu as dit. Quoi.
Ben, c'est vrai que ça... Je trouve que ça... Ça exacerbe en fait pas mal de la violence sociale qui est à l'extérieur. Je trouve qu'elle s'exacerbe particulièrement dans les tribunaux. Bon, et aussi à l'intérieur des prisons. Mais enfin, moi, des quelques procès auxquels j'ai pu assister, j'ai vu clairement qu'il y avait des différences... selon d'où venait la personne, si elle venait de cité, si la personne elle était pas blanche, un étudiant du centre-ville était pas traité de la même manière, il était vouvoyé, il était considéré que ben voilà un mec qui vient de la banlieue, qui a pas la gueule qu'il faut, et ben là c'était le tutoiement, le mépris, etc. quoi.
Là, il se trouve que bon, le vouvoiement était là, mais c'était plus pernicieux, je dirais, comme mépris. C'était plus, on laisse pas vraiment parler, on coupe la parole, on considère que la parole n'a pas vraiment de poids. Et moi, ce que je trouve totalement injuste, c'est que, bah, comme oui, je suis désolée, ils ont pas les mêmes outils, les mêmes armes que nous au niveau du langage. Et c'est totalement, totalement injuste, en fait, de couper la parole. À quelqu'un comme ça, oui, c'est facile. Enfin, c'est très facile.
Parce qu'en plus, ils se retrouvent dans une condition qu'ils connaissent pas, quoi. Enfin, le tribunal, voilà, faut.
Tout dépend. Alors, il y en a évidemment quand ils sont dans la récidive, ils connaissent plus que d'autres. Mais quand c'est quelqu'un qui, je dirais qu'il faut, on tient pas assez compte de l'état mental des personnes. Et ça, c'est aussi un autre volet, je pense, qu'on peut aussi aborder, c'est qu'il y a des personnes qui très clairement, au niveau état psychologique, état mental. Ne devrait pas forcément être en prison. Lui, il se trouve que bon, il était très clairement dépressif et je pense que bah, quand on traite les gens par le mépris, on exacerbe forcément. Parce qu'il faut savoir que bon, il s'est suicidé suite à son jugement. C'est quand même une chose qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'avant son jugement, moi, je le voyais régulièrement. Il tenait plus ou moins, mais je le voyais. Et là, suite à son jugement, les deux semaines qui ont suivi, deux semaines après, il s'est donné la mort en fait. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Parce qu'un jugement, c'est quand même quelque part, oui, c'est un jugement. Bon, nous, on n'en a jamais vécu, et heureusement, parce que je me dis, il faut avoir une force quand même mentale hors du commun pour tenir, enfin, ouais. En étant traité comme ça. Moi, je pense que moi, je m'effondrerais aussi si on me parlait comme ça. Quoi. Ouais.
Bah, c'est pour ça que c'est d'autant plus important de se soutenir les uns les autres, de se former aussi juridiquement. Pour savoir ben, à quoi faire face quand on a affaire à la justice, comment créer des liens de solidarité aussi. Enfin voilà, Parloir Libre, c'est un peu cette tentative-là aussi. Enfin, du coup, je fais un peu des connexions, mais de continuer des liens de solidarité, de parler, de se parler, quoi, entre personnes qui sont à l'intérieur, entre personnes qui sont à l'extérieur, de pas faire des catégories, de pas catégoriser les gens et de continuer ces liens-là. Bon, voilà. Un bon rebond pour dire, appelez-nous au 04 56 14 23 54. Il nous reste un petit quart d'heure. Du coup, n'hésitez pas. On a envie d'écouter vos goûts musicaux, vos petits messages et autres dédicaces.
Voilà, des messages de soutien, par exemple.
Et puis si vous pouvez appuyer aussi peut-être éventuellement des choses qui ont été dites, parce que bon, moi, mon expérience, c'est jusqu'en 2008 à peu près, et je me dis, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué, est-ce que c'est toujours pareil, est-ce que ça a empiré. L'accès au savoir aussi, ça, c'est une chose qui est intéressante, parce que moi, je sais qu'à l'époque, je donnais des cours d'anglais, et bah, quand on donne des cours de langue, c'est quand même intéressant d'avoir accès à tout ce qui est outils informatiques, audio, etc., et moi, je n'y avais pas accès. Donc, je me demande si ça a changé, on a possibilité.
Je crois qu'il y a des possibilités d'accès à Internet, mais très restreintes. D'accord. Où il y a accès à certains sites. Et je pense que ça dépend des maisons d'arrêt. Enfin, j'imagine qu'en centrale, ça doit être plus possible qu'en maison d'arrêt.
Oui, mais je pense que tu as raison. Moi, je ne suis jamais intervenue en centrale, donc c'est vrai que je ne peux pas vraiment.
Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau de musique?
Ah oui, bonne idée. Hein.
Et ouais, on va pouvoir s'écouter MIA, Pull Up the People.
Bonne écoute.
Bonne écoute et on revient tout de suite après.
News FM.
L'esprit hip-hop R&B funk de la bande FM. À Grenoble, sur le 101.2.
101.2.
Donc vous êtes bien toujours à l'écoute de Parloir Libre sur News FM. Vous pouvez toujours nous contacter au 04 56 14 23 54 ou nous laisser des messages sur le Facebook Parloir Libre. Donc maintenant, là, on va vous parler un petit peu de quelque chose dont vous avez déjà parlé les semaines précédentes. C'est le mouvement qui est actuellement à la Maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, qui a été initié par les prisonnières politiques basques et qui a été, ça fait 2-3 semaines maintenant, peut-être même un peu plus.
C'est le début du mois d'avril.
Ah ouais, quand même, ouais, déjà. Et donc voilà, parce que là, il y a eu tout un changement avec à l'intérieur de la détention sur un programme qui est mis en place pour organiser toute la vie à l'intérieur de la prison, tous les mouvements. Et ce qui fait que ça marche pas bien du tout. Enfin, ça marche pas absolument pas. Et ce qui fait que ça pénalise absolument, en fait, justement, les prisonnières politiques basques. C'est pour ça qu'elles sont mises en marche en premier. Parce que comme elles ont surtout de la famille et des proches qui viennent de loin, vu que Fleury-Mérogis est en banlieue parisienne et qu'elles ont souvent de la même famille qu'en Pays basque, qui est donc complètement en bas à gauche en France. Donc, comme c'est les familles mettent du temps pour venir, elles sont obligées de réserver les hôtels, enfin, tout largement à l'avance. En fait, elles ont appris juste 2 semaines avant que les parloirs allaient sauter et tout ça. Donc, en fait, il y a tout qui saute d'un coup. Enfin, il n'y a pas moyen de venir à un autre moment, quoi. C'est pas comme quand on habite juste à côté. Et voilà. Donc la lutte continue à la Maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. Donc, il y a un texte qui vient de sortir qui date d'il y a 2 jours.
Bah, d'hier, en fait.
D'hier.
Du coup, je vais vous lire une lettre du 4 mai 2016 depuis la prison pour femmes de Fleury-Mérogis. Bonjour, nous vous écrivons depuis la MAF de Fleury-Mérogis pour vous informer des changements effectués par la direction concernant les horaires de promenade après le passage au système de promenade unique et de la suite des mouvements que nous, les prisonnières, avons réalisés. Nous constatons que le but de l'administration pénitentiaire est de restreindre les mouvements de prisonnières au minimum. Le système mis en place nous oblige à choisir entre prendre l'air 2 petites heures ou réaliser une autre activité, que ce soit sportive ou culturelle. Si notre activité et même notre parloir coïncident avec la promenade ce jour-là, nous ne sortons pas. Le week-end, comme nous vous l'avions déjà communiqué, il n'y a pas d'activité. Et par contre, il y a souvent des parloirs. Alors nous restons enfermés en cellule pendant des heures et des heures à attendre la promenade du lendemain. Alors nos demandes sont soit de remettre en place les 2 promenades par jour, soit de prolonger le temps de promenade de l'après-midi. Après les protestations que nous avons réalisées ces dernières semaines, le directeur adjoint, M. Parsco, nous avait demandé du temps pour faire quelques ajustements et pour réfléchir sur nos demandes concernant le week-end. Pendant ce temps, quelques blocages ont été réalisés. Le week-end du 16 avril, nous étions 6 personnes du côté condamné et 34 du côté prévenu, encouragées par le soutien reçu de l'extérieur. Ce samedi-là, nous avons entendu les cris des manifestants et manifestantes au loin et de l'intérieur, nous avons essayé de nous faire entendre, ce qui nous a valu d'être escortés jusqu'au parloir sous la menace d'interrompre nos parloirs si nous persistions à crier. Nos proches nous ont transmis avec joie l'ambiance de l'extérieur. Pour eux aussi, c'est important de sentir que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Et pendant ce temps, la répression a continué. La commission d'aménagement des peines du mois d'avril est passé. Des permissions de sortir et l'octroi de remise de peine ont été refusées pour plusieurs femmes ayant participé au blocage. Après, il s'est avéré qu'il y avait des documents manquants ou d'autres raisons pour ces refus, mais ils se sont bien chargés de noter les blocages comme en étant la cause. De notre côté, nous avons décidé de rester systématiquement les 2 heures en promenade, pas 1 minute de moins, ce qui nous coûte des tensions et des rapports au quotidien. Mais, au moins, nous avons constaté que les matones ne se permettent pas de raccourcir autant le temps de la promenade. Finalement, le résultat des profondes réflexions de la direction est arrivé et les ajustements se sont traduits par la mise en place d'un premier appel et la possibilité de réintégrer la promenade si on se trouvait ailleurs, à condition qu'il reste au moins 20 minutes avant la fin. Concernant le week-end, maintenant, les samedis et dimanches, nous sortirons les après-midi de 15h à 17h. C'est-à-dire que maintenant, nous passerons toute la matinée enfermés. Ce changement n'arrange en rien notre situation, et pire, nous montre que la direction reste fixée sur le système de promenade unique de 2 heures. Pas étonnant, avec ces gens, c'est impossible de raisonner. Nous parlons de conditions de vie dignes, ils parlent de règlement. Nous parlons d'entraide, de partage, eux parlent de trafic. Nous parlons d'humanité, ils parlent de textes de loi. Nous parlons de besoin de communiquer, de discuter, de se rencontrer. Eux parlent de la sécurité et d'isolement. Ils font leurs lois, ils créent des systèmes de contrôle qui naissent des besoins de réprimer les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est là la machine qui s'alimente elle-même. C'est en nous menant à bout et en créant des tensions qui justifient leurs dérives sécuritaires et répressives. Nous continuerons à nous battre pour des conditions dignes à l'intérieur comme vous le faites à l'extérieur. En espérant vous entendre à nouveau le samedi prochain, nous envoyons une forte accolade enragée et solidaire à toutes celles et ceux qui luttent et résistent. Et il y a un petit PS à cette lettre qui invite à un rassemblement samedi 7 mai 2016, du coup c'est dans 2 jours, devant la maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis. À 13h.
Ah bah très bien. Et à la fin, on retrouve ça sur le site de L'Envolée ou sur le site de Paris Lutte Info.
L'Envolée.net.
L'Envolée.net. Il y a un petit mot, on vous en avait parlé déjà, un petit mot qui a envoyé mon monsieur Pasco en question, là, qui est le directeur adjoint. Donc c'est un petit texte qui est assez court, qui se trouve et qu'en fait on envoie directement là-bas en soutien aux prisonnières en lutte. Et c'est toujours bien d'avoir des lettres qui arrivent.
Je le lis, mais on pourrait peut-être aussi le mettre sur la page Facebook pour que ça soit accessible. Pour écrire au directeur de la MAF. Monsieur Pasco, les conditions de vie que vous voulez imposer à la MAF de Fleury-Mérogis constituent une atteinte à la dignité humaine. Le système de promenade unique et alterné suppose un enfermement dans une cellule sans aération, sans douche et sans frigo, qui peut se prolonger pendant 26 heures les jours où il n'y a pas d'activité ni sport, ce qui arrive souvent, et surtout le week-end. Je réclame des conditions dignes et que les demandes des prisonnières soient prises en compte. Du coup, ça c'est la petite lettre que, si vous voulez, envoyer au directeur de la maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis pour appuyer la lutte des prisonnières. Du coup, bon, je vais dire rapidement l'adresse, mais vous pourrez la trouver sur notre Facebook. Du coup, Monsieur Pasco, c'est le directeur adjoint de la MAF de Fleury-Mérogis, 9 avenue des Peupliers, 91 705, Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est Dex.
Tout à fait. Et après, je voulais passer un petit message qu'on avait reçu sur le Facebook, une dédicace, qui était de la part de Ludo à Marseille pour Kamel, qui est enfermé à Vars actuellement. Donc ça disait « Force, courage et détermination pour tous les enfermés, à Vars et ailleurs, plein de pensées pour Kamel et tous les prisonniers longue peine.
Voilà. » Du coup, ça c'est un message qu'on avait reçu il y a un petit moment.
Ouais, c'était pour l'émission du 31, l'émission spéciale du 31.
D'accord. Voilà. Eh bien, je crois que notre émission touche à sa fin. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Il nous reste une petite minute. Si vous avez envie de passer un coup de fil, n'hésitez pas. Au 04 56 14 23 54. Je vous rappelle le principe de l'émission Parloir Libre. C'est du coup un espace de parole pour les prisonniers, les prisonnières et leurs proches. Une heure d'antenne tous les 2 jeudis pour vous. Alors, on se retrouve le jeudi 19 mai à 21h sur News FM.
Et en attendant, tout à l'heure, on va avoir Night Club qui commence de 23h à 1h. Et puis demain, peut-être, la matinale, si elles ne font pas le pont. On sait ça.
Je ne suis pas sûre. Du coup, s'il y a la matinale, c'est à 7h.
Avec Léana et Clara.
Eh bien, bonne soirée sur News FM, montez le son et bonne écoute.
Salut. Bonne soirée, salut.
Au revoir.